je vous rappelle éventuellement donc le sujet que nous étudions. Il s'agit de cerner l'organisation de l'Évangile selon saint Luc, selon des techniques littéraires et une stratégie de communication qui est explicite. C'est ça l'intérêt, bien entendu. Enfin, j'espère ne pas l'avoir inventé dans saint Luc. On la retrouve dans des techniques donc de composition. Vous rappelez donc à la fois la synchrisis, le dédoublement, la véridiction. Et on essaye de les regarder un peu par masse. Donc il y a quatre masses dans un évangile synoptique: les préparations, le ministère galiléen, la montée vers Jérusalem, qui est considérable chez saint Luc, ça sera l'objet de notre travail après l'ascension, et passion-résurrection. Mais on passera peut-être plus de temps sur la montée vers Jérusalem, ça vaut peut-être la peine d'y passer deux séances, et passion-résurrection, c'est plus simple, je vous ferai un plan aussi. Et... Alors, on a vu comment il y avait une agrafe entre le prologue, les quatre premiers versets, et la première partie. La manière dont Luc accroche sa première partie à son prologue est elle-même riche de surprises, parce que Luc prétend qu'il s'est enquis soigneusement de tout d'après des témoins oculaires devenus serviteurs de la parole depuis les origines. Et vous remarquez que la première scène qu'il raconte dans les préparations, l'annonce à Zacharie, par définition, n'a pas de témoin. Et en plus, c'est un vieux monsieur âgé. Luc intervenant à une autre génération, 50 ans ou 80 ans après les événements, a beau avoir fait une enquête potentielle, il y a peu de chances qu'il ait rencontré M. Zacharie ou Mme Élisabeth, à cause de leur grand âge. Et c'est lui-même qui insiste, ils étaient très âgés. La scène se passe dans le temple, qui entrait le prêtre tout seul. Il n'y a pas de témoin. Vous voyez, Luc n'est pas idiot, ou alors on peut faire toujours l'hypothèse que c'est un texte qui a été rajouté par une autre main. Mais on n'a pas non plus de témoins là-dessus. Vous voyez, qu'est-ce que donne l'avertissement qu'on a pris tous les moyens pour être certain de ce qui s'est passé et de raconter sans autre préalable une scène irracontable, enfin, ou que l'on montre comme étant irracontable, car il insiste. Notre Luc, il insiste sur la spécificité de cette scène. Vous voyez, ça fait un choc. Vous voyez. Alors, ce choc, encore une fois, est-il signe d'une autre main, d'une autre écriture, donc d'une sorte d'incohérence, de copier-coller grossier? Ou alors, témoigne-t-il, alors, dans les perspectives qu'il a dévoilées, donc toujours cette véridiction, cet enchaînement de témoins surnaturels ou de témoins humains, d'une autre scène, effectivement, qui est à la fin de l'Évangile et qui n'est rien de moins que l'annonce pascale. À la fin de l'Évangile, nous avons de nouveau des anges qui vont annoncer quelque chose d'ahurissant et de proprement incroyable. Et vous voyez, puisqu'il s'agit de se préparer à vérifier la solidité de ce qui a été transmis à Monsieur Théophile, Luc commence dès la première scène. La première scène est une scène choquante. Et Zacharie reçoit la visite d'un ange dans un lieu où il est tout seul. En plus, il se fait engueuler parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et on a tous les ingrédients de la scène ultime du dernier chapitre de l'Évangile. Il y a une sorte d'entraînement à la fois intellectuel et spirituel pour être à la hauteur quand viendra l'annonce essentielle qui est en pointillé dans l'ensemble de son récit. Vous voyez, il y a une espèce de cohérence, y compris dans le paradoxe et dans le choc. Donc ce n'est pas du tout une main étrangère, hein, non, c'est une main qui prépare précisément une sorte d'exercice, donc encore une fois de reconnaissance, d'anagnorisis, etc., prenez les mots que vous voulez, pour arriver à être à la bonne hauteur lorsque viendra l'essentiel de l'Évangile. Mais si on ne se prépare pas, si on ne voit pas le paradoxe et le choc de la première scène, on risque de louper le paradoxe et le choc de la dernière scène.
Henri, la réponse un peu naïf, hein, mais dire mais c'est Zacharie lui-même qui l'a raconté.
C'est peu vraisemblable. Une fois, Luc fait exprès de montrer qu'il est déjà très âgé à ce moment-là, et Luc n'arrive que beaucoup plus tard.
Oui, pas forcément à Luc lui-même, hein, il a pu le raconter.
Tout à fait, mais c'est déjà l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. On n'est pas du tout, après m'être enquis moi-même, soigneusement, de tout ce qui s'est passé. Mais il y a déjà une sorte de distance qui est mise en lumière pour montrer que dès le départ, il se passe quelque chose qui nécessite une reconnaissance, un véritable travail, un véritable engagement de la part du lecteur. Ce que je voudrais vous signifier, si vous voulez, c'est que si le lecteur est un bon lecteur, il ne doit pas prendre ça de manière facile. Et il est invité à émettre un certain nombre d'objections. Rassurez-vous, elles sont voulues par l'auteur lui-même. Si on parle tellement de véridiction, de une crise et autres, c'est qu'il y a un véritable travail que tout lecteur doit opérer. Ça ne vient jamais tout seul. Et vous voyez pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est précisément d'arriver à une annonce hors du commun, qui est celle de la résurrection éternelle d'un homme qu'on a vu crucifié. Et donc, il faut s'y préparer. Oui, donc ça vaut déjà entre le verset 4 et le verset 5. Il y a déjà donc un terrain d'entraînement qui est délimité par notre auteur. Ensuite, ça marche aussi dans les masses. C'est-à-dire que comment fonctionne l'articulation, donc on a vu entre le prologue et les préparations. Maintenant, dans quel état le lecteur se trouve-t-il après la première partie, c'est-à-dire au chapitre 4, verset 13, et quand il voit commencer ce qu'on appelle le ministère galiléen, c'est-à-dire que Jésus a à peu près 30 ans, et il va commencer donc à faire son coming out et à se manifester, pas simplement comme fils de Joseph, mais comme prophète, et même beaucoup plus. Alors là encore, c'est assez simple. Toutes les informations qu'on a dans la première partie sont toutes des informations surnaturelles. C'est toujours des anges ou le Saint-Esprit. Ils peuvent avoir autorité, mais cette autorité, on l'a déjà vu avec l'expérience de la Vierge Marie à l'Annonciation, cette autorité, elle n'est pas partageable. Vous vous rappelez comment, dans le premier chapitre, Marie devait aller chez Élisabeth pour obtenir de la part de quelqu'un de connu et qui a une autorité reconnue l'authenticité du message que l'ange avait délivré, l'autorité de l'ange étant invérifiable de la bouche du témoin principal qui est Marie. Vous rappelez, j'ai vu un ange qui m'a dit que. Oui. Alors, ce qui marche sur le dédoublement annonciation-visitation fonctionne sur les préparations et le ministère galiléen. En d'autres termes, tout ce que nous avons sur Jésus, par une information surnaturelle, doit être maintenant mis à l'épreuve d'une information dans des gestes et des paroles intelligibles, reconnaissables. Et tout le travail, ça va être de mesurer les informations qu'on avait de sources invérifiables avec des informations que l'on a maintenant d'une source qui est observable. On retrouve le phénomène de la véridiction. Globalement, on sait à peu près tout sur Jésus dans les quatre premiers chapitres. Il vient de Dieu, il est conduit par l'Esprit Saint, il apporte le salut. Vous vous rappelez tous les grands personnages, l'ange Gabriel, Siméon, mes yeux ont vu le salut, etc. Réconciliation pour les Juifs et les... Oui, tout est annoncé et la médiation du Christ est dévoilé comme étant efficace pour réaliser ce projet. Le problème, encore une fois, c'est qu'il faut vérifier. Et donc, du chapitre 4, verset 14, jusqu'au chapitre 9, verset 50, c'est la deuxième partie, elle est racontée pour faire cette opération. Alors, il y aura après une troisième opération dans la montée vers Jérusalem tout à fait spécifique, donc qui va être orientée vers le mystère pascal, et puis après, il n'y aura plus effectivement qu'à raconter comment Jésus est mort et comment il est ressuscité, et comme une sorte de garantie, vous voyez, hein, là encore, de véridiction suprême, vous voyez, qui fonctionne avec l'idée que la résurrection du Christ prouve que ce que Jésus a dit et fait était le bon choix. Ça peut paraître absurde de tendre l'autre joue, de pardonner, de partager, sauf si la résurrection du Christ vient comme, comme pierre de touche, vous voyez, comme vérification de la justesse, de la vérité de ce qui a été énoncé. Vous voyez, les quatre parties sont pour cela très bien organisées. Maintenant, nous allons retrouver les ingrédients qu'on avait déjà entre le verset 4 et 5 du premier chapitre. Donc, on nous dit, je me suis renseigné sur tout, maintenant, la matière de ce que je vous raconte est au-delà de ce qu'on peut connaître. Alors, je voudrais ce soir, en fait, parcourir donc, dans le plan, vous voyez, donc, la partie B, hein, donc il y a A, B, C, D, hein, donc je rappelle les annonces, hein, les préparations, disons. Hein. B, c'est le ministère galiléen, donc de 4,14 à 9,50. C, ça sera la montée vers Jérusalem. D, ça sera passion, résurrection. Pour faire ce parcours ultra rapide de l'ensemble de l'œuvre, on va s'attacher, comme on a fait la fois dernière, aux articulations. C'est-à-dire principalement, et c'est ça que j'ai mis sur trois pages, je l'ai tiré en gros de la Bible liturgique, hein, parce qu'on la trouve immédiatement sur Internet, et j'ai dû changer un ou deux mots, mais à peine, c'est pas si mal traduit, c'est assez bien traduit. J'ai peut-être pas mis des mots en lumière, mais sinon j'ai fait ça rapidement. Donc ce que je voudrais évidemment, c'est confronter la première et la dernière scène. Quels sont les principes qui sont mis dès le départ? Parce que si des principes d'intelligibilité sont mis quelque part, c'est forcément au commencement. Sinon, l'auteur perdrait son temps. Le lecteur ne rentrerait pas dans quelques pédagogies possibles. Et l'intérêt, c'est de voir à quoi on aboutit. C'est assez paradoxal, comme on peut s'y attendre, et c'est parfaitement intelligible aussi. La première scène, vous voyez, je l'ai appelée « discerner l'impossible », donne bien la dimension du paradoxe. Le discernement, c'est un acte d'intelligence, mais si son objet est impossible, on ne voit pas très bien à quoi cela peut correspondre. Et si vous regardez la fin, donc le chapitre 9e, les 12, les 12 apôtres, bien sûr, donc appelés, vous voyez, à partager la mission de celui qui s'est révélé comme le Messie, fils de Dieu, se montre parfaitement incompétent. Oui. Là encore, rappelons-nous Théophile, hein, il est invité donc à vérifier la solidité de ce qui lui a été transmis. Donc il y a forcément une mise à l'épreuve de la foi du disciple. Ben, c'est étonné qu'on ait des problèmes dans la foi. La foi est mise à l'épreuve, elle est invitée à grandir, mais ça ne peut pas être un chemin facile, on nous avertit. Alors, la première scène, c'est la prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Alors, il y aurait des éléments, je ne sais pas si je les mets dans les feuilles ou pas. Oui, alors j'ai rajouté ce que dans l'Antiquité on ne faisait jamais. On ne mélangeait jamais le texte et le commentaire. Vous voyez même sur un traitement de texte, je ne sais plus quand j'ai fait ça, mais je rougissais de honte en introduisant des commentaires dans le texte. Alors même le mettant en majuscule pour être sûr que vous n'alliez pas confondre mes mots avec les mots inspirés de Luc, inspirés par le Saint-Esprit. Mais enfin bon, c'est... On a d'autres techniques aujourd'hui et on comprendra. Alors, ça commence par ce qu'on appelle un sommaire, une sorte de mise au point très généralisante. Luc est familier de cette technique. C'est un texte court, généralement 1, 2, 3 versets, et qui fait le point. Soit en commençant un récit, soit pour le conclure. Où va-t-on ? Et où en sommes-nous? Ça commence de manière extrêmement large. Donc Jésus, dans la puissance de l'Esprit, donc on a vu très à l'œuvre dans les quatre premiers chapitres, revient en Galilée. Alors ça se passait dans la Judée, on était dans les baptêmes et dans les tentations au désert. Sa renommée se répandit dans toute la région. Là, ça c'est un refrain qu'on va trouver très souvent chez saint Luc. Jésus fait tout pour qu'on parle de lui et qu'on mette en œuvre précisément ce qu'on voit, ce qu'on sait et ce qu'on croit. Et il y a une mise à l'épreuve qui nécessite une information. En termes modernes, on pourrait dire effectivement, et je crois d'ailleurs que matériellement c'est très vrai, au plan même de l'histoire, que Jésus a parfaitement organisé sa communication. Et il fait des miracles quand il faut en faire, et pas grand monde ne serait venu l'écouter s'il n'y avait eu de nombreuses dérisons miraculeuses qui attiraient les foules. Cela dit, on voit que les gens qui viennent pour une dérision ou parce qu'ils ont faim restent pour écouter ce que Jésus dit, mais avec des intentions évidemment, avec des attentions ou des intentions qui peuvent être variées. Alors là encore, l'art du paradoxe, il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Mais les verbes sont à l'imparfait, duratif, c'est typique du sommaire. Et donc, ça généralise ce qui va se passer. Mais simplement, vous connaissez assez l'Évangile pour savoir que la première scène qui suit va être un échec cuisant. Et c'est un petit peu comme encore une fois au chapitre 1, versets 4 et 5. Hein. Jésus enseignait dans les synagogues, tout le monde faisait son éloge, et là, il se fait buter dans une synagogue. Et on raconte donc l'échec, après avoir dit, c'est un succès. Enfin, du moins, c'est un échec. Vous rappelez aussi ce binôme fondamental, hein, le témoin oculaire, de devenir serviteur de la parole. Oui. Donc ici, le témoin oculaire va conclure à l'échec, puisque Jésus est menacé de mort, il en échappe comme ça, on ne sait pas comment. Mais finalement, le serviteur de la parole, que nous allons tous devenir dans la demi-heure qui vient, va pouvoir établir que, finalement, c'est exactement ce qui était dit au verset 15. De fait, il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il avait raison. Mais on va voir que c'est de l'indirect qui fonctionne. Tout est dans de l'indirect. Alors, la scène commence au verset 16 et va jusqu'au verset 30. En bas de la page, hein, j'ai mis la fin de la deuxième section, c'est-à-dire le chapitre 9, qui est très long. Et qu'il faut qu'on regarde pour le confronter justement à ce premier chapitre. Alors, il vint à Nazareth, alors j'ai ajouté, la scène est anticipée narrativement. Elle est racontée en Matthieu 13 et en Marc 6. Oui, nous sommes en Luc 4. Oui. Alors, Marc n'ayant pas d'évangile de préparation, la scène se passe chronologiquement à peu près au milieu du ministère galiléen, mais Luc la raconte comme une première scène, donc il l'anticipe, parce qu'il en fait une sorte de grille de lecture pour l'ensemble de ce que Jésus dit et fait. Mais cette anticipation, qui est explicite, hein, on verra qu'il y a au moins un indice pour montrer que Luc connaît la vraie chronologie et qu'il indique qu'il ne raconte pas les événements dans l'ordre dans lequel ils se sont passés. C'est la liberté de l'auteur. Rappelez-vous que deux fois dans le prologue, Luc a indiqué qu'il faisait une composition savante et un récit ordonné, dont il se réserve le droit de mettre les différents récits dans l'ordre qui lui semble le plus intéressant. Il n'est pas historien au sens simplement de l'ordre, de la chronologie, mais dans la pédagogie, dans l'intelligence de ce qui se passe. Alors, on décrit la scène brièvement. Alors, à Nazareth, où il avait été élevé, 30 ans de silence. Attention, les gens, les acteurs, ne savent rien de ce que le lecteur connaît. Par exemple, au chapitre 3, Luc dit « Jésus avait environ 30 ans ». Alors, quand il met « environ », ça veut dire que ce n'est pas un chiffre exact, c'est un chiffre symbolique. « Il était, croyait-on, fils de Joseph, fils de... » etc. Et il a une généalogie ascendante qui remonte carrément jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Et oui, l'idée « il était, croyait-on, fils de Joseph » ne fonctionne que pour nous. On appelle ça le privilège du lecteur. Et donc l'acteur, lui, en sait moins que nous qui lisons le texte. Cela dit, il n'est pas non plus abandonné. Il va entendre, par exemple, une homélie que nous n'entendons pas. Et nous, on a juste une espèce de petit résumé, alors que Jésus a dû faire une homélie synagogale tout à fait classique. Oui. En plus, les témoins sont des habitués. Jésus a déjà fait des prouesses dans les autres villages. D'ailleurs, on nous le dit dans un verset, « Fait ici ce qui s'est passé à Capharnaüm. C'est le verset 23. Voyez. Donc Luc indique bien que Jésus a déjà manifesté ses dons dans d'autres villages. Sa réputation fonctionne et c'est l'enfant du village qui revient dans son pays et qui, bien sûr, est attendu au tournant par tous ses collègues adultes avec qui il a vécu depuis qu'il est petit. Il n'a rien fait de particulier. Quand quelqu'un émerge d'un seul coup, forcément, c'est une surprise. Et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, se leva pour faire la lecture. Et, au passage, on comprend que Jésus est un lettré, enfin un lettré au minimum, oui, de l'éducation juive. Hein, la bar mitzvah qu'on fait à 12 ans consiste à savoir lire un texte et déjà savoir faire un commentaire. Hein. On ne lit pas un texte sans faire le commentaire. Alors on les distingue, on ne les mélange pas, mais on sait faire l'un et l'autre. Et Jésus s'inscrit tout à fait donc dans cette tradition. On lui remit le livre du prophète Isaïe, etc. Alors, c'est pas un livre, c'est un rouleau, mais peu importe, on n'a pas besoin d'un contexte si précis de ça. On peut savoir quand même, c'est intéressant, que dans la synagogue, selon toute vraisemblance, il y avait un lectionnaire. On ne lisait pas ce qu'on voulait, un peu comme on a, nous, un lectionnaire du dimanche, un lectionnaire de semaine. Il y avait aussi un lectionnaire pour le sabbat. On lisait la Torah sur une seule année. On lisait aussi une partie des prophètes et des autres écrits de sagesse, psaumes, etc. Et selon un programme, un canon, si vous voulez, dont on retrouve, semble-t-il, d'après des études assez sérieuses, des éléments assez significatifs. Et on peut arriver à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on lisait avec le prophète Isaïe dans la Torah ou dans les psaumes. Alors, je crois qu'on connaît bien, ça se chante, etc. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle, hein, l'Évangile aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, aux aveugles ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Alors, j'ai noté simplement, le texte est un texte recomposé par Luc. Hein. On trouve des éléments de Isaïe 61 et de Isaïe 58. Il n'a pas lu ça dans cet ordre-là. Là encore, liberté pour l'auteur de recomposer, y compris des passages de l'Ancien Testament. Hein. Alors, au verset 19, le texte continue, annoncer, là je l'ai souligné, une année favorable. J'ai laissé la traduction du lectionnaire, on va retrouver le thème de l'accueil, hein, une année d'accueil, voyez, accordée par le Seigneur. Ça peut correspondre à des années saintes. Hein, tous les 50 ans, il y avait une année jubilaire dans le monde juif. On calculait tout par 50. Hein, 50, c'est le chiffre de la Pentecôte. Hein, Pentecôte, ça veut dire 50. Il y a des livres apocryphes qui reprennent tous les récits bibliques selon un rythme des cinquantenaires. Mais il y avait les années jubilaires, il y avait les années sabbatiques, donc tous les 7 ans, tous les 7 fois 7 ans, et on faisait les jubilés pour des institutions. Pardon, on peut penser que le temple, qui avait commencé d'être reconstruit en l'an 20 avant Jésus-Christ, devait préparer son année jubilaire, les 50 ans du temple, qui n'était pas encore fini, mais qui était toujours comme la Sagrada Familia de Barcelone, hein, toujours en construction permanente, devait fêter. D'ailleurs, ça pourrait correspondre, ça serait assez intéressant, que la passion et la résurrection du Christ correspondent avec l'année jubilaire du temple. Car d'après la chronologie, les fourchettes que l'on connaît de l'Évangile, Jésus est mort le jour de l'année jubilaire, pendant les 50 ans du temple. Lui qui se donne à connaître comme le signe ou le nouveau signe du temple, c'est-à-dire de la présence divine. Vous voyez, une sorte d'harmonie qui nous est donnée par des indices tout à fait variés, qui montre une cohérence là aussi reconnaissable. Et ça n'est pas je ne pense pas que ça puisse être par hasard que ça se fasse. Alors Jésus referme tout ça. Tout le monde attend, et les yeux fixés. Hein, j'ai déjà souligné que Luc fait très attention au verbe de regard. Et qu'est-ce qu'on voit, hein, dans l'Évangile? Vous rappelez, hein, mes yeux ont vu le salut, hein, et le témoin oculaire doit devenir serviteur de la parole. Donc voilà, qu'est-ce que les gens voient exactement, et dans cet homme qu'ils croient connaître et qui va manifester quelque chose de tout à fait nouveau et différent. Hein. Il se mit à leur dire, donc aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Hein. Alors, les aujourd'hui dans Saint-Luc sont tout à fait, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5, je crois, hein, sont très intéressants, toujours dans cette idée de reconnaissance de ce qui a été promis et qui est en train de se passer. Vous voyez, Je ne sais pas si vous vous souvenez de les fois où il y a aujourd'hui dans l'Évangile.
Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Alors, à la fin, nous avons quelque chose de tout à fait fondamental et de tout à fait scandaleux. Vous voyez, alors, nous, on l'appelle le bon larron. Alors, moi, je me suis imaginé pendant 30 ans, c'était genre Jean Valjean qui avait piqué une boule de pain, qui se retrouve au bagne abominablement. Alors, c'est pas ça du tout. Hein, vous voyez, le larron est un bandit, vous voyez, et en général, on ne crucifie pas n'importe qui dans l'Empire romain, même s'il y a des complots, il y a quand même des lois, et on peut s'imaginer que c'est plutôt un crime grave, vous voyez, avec plutôt effusion de sang, c'est plutôt un criminel, si vous voulez. Hein. Alors, le aujourd'hui est lié donc au moment du salut. Hein. C'est Dieu qui intervient. Les autres fois où on a aujourd'hui, c'est aussi assez populaire, si j'ose dire, une des plus célèbres nuits de l'année, à la messe, c'est n'importe quel moment. Hein. Enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais hein, donc c'est la nuit de Noël.
Allez.
Hein, aujourd'hui, vous aimez un sauveur. Vous voyez, donc, aujourd'hui est important. Il n'est pas chronologique, évidemment. Enfin, il n'est pas seulement chronologique. Hein, vous voyez, c'est ce jour que fait le Seigneur. Vous voyez. Et vous vous rappelez, hein, c'est quoi ? Enfin, vous verrez le signe, c'est un enfant. Donc, il y avait un paradoxe étonnant pour reconnaître vraiment l'aujourd'hui, hein, le bon moment dans lequel Dieu intervient. Hein, on aura aussi... aujourd'hui, il me faut demeurer dans ta maison. C'est Zachée. Et qui intervient. Et donc on a des moments comme ça un peu décisifs où le salut est en train d'intervenir en faveur d'Israël et par Israël de l'humanité toute entière. Vous voyez. Alors vous voyez, au verset 19, on avait annoncé une année favorable et aujourd'hui s'accomplit cette écriture. Est-ce que ça porte sur l'Esprit du Seigneur et sur moi ? Est-ce que ça porte sur le bon moment, vous voyez, où Dieu vient visiter son peuple ? Et tout ça, donc, est ouvert. Et cette petite phrase, en fait, est une sorte de tremplin, vous voyez, pour annoncer hein, l'accomplissement donc, des promesses qui ont été faites à Israël. D'ailleurs, hein, vous voyez, au verset 22, tout le monde lui rendait témoignage. On comprend que ce témoignage est bon. Le mot n'y est pas, j'ai rajouté entre parenthèses « bon témoignage », mais c'est dans la logique de ce récit et du contexte. Oui. Oui. Un bon témoignage, donc ça veut dire qu'ils connaissent la parole d'Isaïe et qu'ils attendent donc l'actualisation de cette promesse. Ça va venir, ça vient. C'est le moment de reconnaître ce qui est en train de se passer. Et il pose la question fondamentale qui va être le ressort de tout l'évangile. N'est-il pas ou n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Alors, encore une fois, le lecteur a été prévenu, il n'est pas fils de Joseph, il est fils de Dieu. Mais les habitués, les habitants de Nazareth ne peuvent pas, évidemment, le savoir. Notons bien que cette question, dans le contexte toujours, n'est pas négatif. Ils ne peuvent pas ne pas se poser la question « d'où vient-il ?» Et Et fils de Joseph, c'est simplement une dénomination, on va dire, civile. Peut-être que Joseph a très bonne réputation et qu'on ne s'étonne pas que son fils soit un honnête prédicateur de l'Écriture. Mais là, il ne s'agit pas d'un honnête prédicateur, il s'agit de l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'ordre du salut. Comment peut-il, au fond, être le sauveur ? Et donc, normalement, il y a quelque chose qui coince. Oui, mais avec Luc, ça coince tout le temps. Il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose d'excessif qui est en train de se passer. Et donc, c'est le ressort de l'ensemble de l'Évangile. J'ai mis comme ça quelques citations de ce qui précède. Et Jésus reprend la main. Et il va aller dans le sens d'une provocation. Et la question est une bonne question. Comment peut-on répondre à l'identité de quelqu'un qui est en relation étroite avec Dieu ? Je prends une expression extrêmement large parce qu'on a déjà dit qu'on ne peut pas signifier d'un homme qu'il est Dieu lui-même. Oui, ça ne rentre pas, il faut avoir le mystère trinitaire un peu dissible pour oser être aussi frontal. Hein, on dit simplement qu'il a une relation exceptionnelle, vous voyez, avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, avoir une relation même exceptionnelle avec Dieu, vous voyez. On va juger l'arbre par ses fruits. Hein. L'Évangile fonctionne, voyez-vous, par... des ressorts d'intelligibilité, voyez, qui vont faire appel à d'autres registres que ceux immédiatement convoqués. Encore une fois, on n'a pas les moyens, y compris verbaux, hein, de dire quelque chose de complet, de satisfaisant sur l'identité de cet homme par rapport à Dieu, alors on va l'exprimer par des effets. Oui. D'où l'idée que Jésus reprend la main pour indiquer précisément ses effets. Quand il reprend la main, la fameuse formule « vous allez me dire » montre bien qu'il entend tenir justement cette main et garder cette initiative. Oui. Donc vous allez me dire « nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais-le donc de même ici dans ton lieu d'origine. Oui. » Alors oui, faire chez soi ce qu'on a fait à l'étranger, c'est un peu la volonté d'une réduction. Oui. Il y a un principe d'altérité, il est fondamental. Alors l'altérité, elle est où? Elle est dans l'identité de Jésus. Et Jésus est un homme, oui, mais Jésus est autre aussi qu'un homme. Il est un homme et il est autre chose. Pas encore dire tout à fait qu'il est Dieu, mais c'est ce que les anges ont signifié. Mais les anges peuvent le dire, un homme ne peut pas le dire. Et il n'est pas simple de penser l'incarnation. Ça, je crois qu'il faut vraiment affronter cela comme un paradoxe. Ça ne peut pas être une facilité, encore moins une évidence. On trahirait l'ensemble de l'Évangile. Et on rendrait inutile ce fameux effort de véridiction. Comment c'est vrai? C'est encore une fois qui est le ressort tout à fait fondamental. Alors, l'altérité de Jésus, dans son identité, elle va se manifester, par exemple, par le fait qu'il se manifeste ailleurs, à Capharnaüm. Vouloir que ce soit simplement dans son patelin, c'est réduire Jésus à l'univocité. Un seul pôle. Oui. Tenez, dans un texte de Saint Luc, dans le chapitre 9, qu'on verra tout à l'heure, dans la transfiguration, Jésus ne parle pas, Luc ne parle pas de transfiguration, métamorphose, donc pour Matthieu et pour Marc. Il dira, son visage devint autre. Et Luc est vraiment le champion de l'altérité dans le Christ, ce que les théologiens après vont appeler la double nature. Dans l'unique personne. Oui. Mais ça, c'est au IVe siècle. Vous voyez. Au Ier siècle, voilà, il est autre. Et cette altérité que Jésus a simplement commencé de manifester en allant ailleurs que chez lui pour faire ses premiers miracles et ses premiers enseignements, il va la prolonger dans son maximum, dans ce qu'on peut penser à l'époque. Oui. Alors, il amène le principe fondamental, vous voyez. Alors, il est assez bien traduit, justement. Hein. Il ajoute au verset 24, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » Vous voyez, on avait l'année favorable au verset 19, on a l'accueil favorable au verset 24. Et c'est assez bien traduit, justement, cette capacité d'accueillir. Alors oui, on avait les années jubilaires. Comment accueillir dans le temps un temps divin? Et là aussi, paradoxe, voire contradiction, voire impossibilité, voyez, une sorte d'affleurement de l'éternel dans le cours du temps. C'est l'enjeu de l'incarnation et de l'alliance avec Dieu. Comment Dieu, infiniment grand, peut-il faire alliance avec un monde éphémère, ou avec des gens qui vivent dans un monde éphémère? Voyez. Alors, la Bible liturgique a traduit par un présent, voyez, un présent duratif. Donc, non pas un acte ponctuel, Jésus n'a pas été accueilli à Nazareth, non, ça traduit assez correctement l'adjectif verbal, dektos, un prophète, on pourrait traduire différemment, un prophète n'est pas recevable dans sa patrie. Et donc on insiste sur l'impossibilité de ce qui est énoncé, alors que même on doit trouver, vous rappelez que les actes des apôtres qui suivent l'évangile le montrent, on doit pouvoir être disciple. Et donc c'est cette double polarité qui est intéressante, on ne peut pas, on peut. Comment va-t-on résoudre cette difficulté? Mais vous voyez, cette difficulté ou cette altérité, elle est liée, au fond, de manière intrinsèque, ne serait-ce qu'à l'identité de Jésus. Il n'est pas qu'un homme, il n'est pas qu'un Dieu, il est et Dieu et homme. Vous voyez, il y a une analogie entre ces altérités. Alors, il y a aussi l'altérité donc sociologique, Nazareth d'un côté, Capharnaüm de l'autre, mais c'est plutôt des querelles de clochers entre la Creuse et puis l'Indre-et-Loire, hein, donc c'est peu de choses, et ça va devenir beaucoup plus fort au verset 25, et Jésus va la pousser à son maximum. Je vous le dis, au temps du prophète Élie, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, donc une grande sécheresse, une grande famine, il y avait beaucoup de veuves en Israël, Élie ne fut envoyé à aucune, mais bien dans une ville de Sarepta, donc c'est les Sidoniens, donc c'est la Phénicie, donc c'est les païens, chez une veuve étrangère. Oui, donc au temps d'Israël, déjà, Élie est venu au secours, non pas d'un juif, mais d'un païen. Alors, généralement, il y a une barrière infranchissable entre le monde juif et le monde païen. Voilà que Dieu, en Élie, s'est montré favorable à des païens. Et il n'y a pas d'altérité plus grande, vous voyez, en Israël, que l'altérité juif-païen. Paul résumera en deux autres altérités, hommes et femmes, juifs et païens, hommes libres et esclaves. Et on prend vraiment des sociologies bien différenciées. Et il y a vraiment une différence fondamentale, et voilà que cette différence a été brisée déjà dans les temps anciens. C'est une lecture qui est très exagérée. Et Jésus, Élie a fait des merveilles pour les juifs. Mais pousser l'écriture, exagérer l'écriture, est un principe dans le monde juif comme dans le monde chrétien, chez les pères d'Église. Aujourd'hui, on est très scientifique, un étudiant mettrait ça dans un devoir, on dirait zéro, vous voyez. Mais dans ce contexte, ça se fait tout à fait. Ça vaut pour Élie, ça vaut pour Élisée, hein, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. Les Syriens étant à l'époque les ennemis jurés d'Israël. Et donc ici, en pleine inimitié, Dieu, en Élisée, fait un cadeau royal à un général qui pourtant faisait des razzias en Israël, piquait les petits garçons, les petites filles pour servir d'esclaves à la cour du roi et dans sa propre maison. Vous voyez, ici, on a une double extension. On a une extension de l'influence de Dieu qui brise le privilège et les limites s'étant fixées à Israël pour aller chez les païens. Et cette extension, très exagérée, encore une fois, par rapport à l'Ancien Testament, est au service d'une extension de l'identité de Jésus. Et tout aussi vrai que Jésus est à la fois Dieu et homme, tout aussi vrai la promesse de Dieu est féconde chez les Juifs et chez les païens. Mais alors, l'identité du Christ est impossible à comprendre. L'extension des promesses et des bienfaits divins chez les uns et chez les autres leur éclate en pleine figure.
En fait, tu me fais comprendre un truc, c'est que si Dieu...
Je suis content.
Si Dieu avait donné la loi de Moïse à tous les peuples de la terre en même temps, il n'aurait pas pu se révéler comme vrai Dieu.
Exactement. Les limites qui sont fixées repoussent les limites, au fond, de la révélation de Dieu lui-même.
C'est parce qu'il voulait s'incarner qu'il a vraiment
limité,
pu inscrire dans, dans l'histoire une altérité aussi importante que celle de Juif.
Mais c'est aussi, comme on disait, c'est parce qu'il voulait partager son sang que la mandutation du sang était interdite. Vous voyez, il y a une espèce de pédagogie, vous voyez, qui est mise en œuvre dès le départ et qui a une logique pour aboutir à un effet maximal. Vous voyez, et en général, c'est plutôt la fin qui fait comprendre pourquoi il y avait des limites. Mais vous voyez donc un argument sociologique qui est analogue à un argument pour découvrir l'identité de quelqu'un. Et il y a vraiment une proportion entre les deux, toute cette construction. Encore une fois, ce texte est propre à Luc. Hein. Matthieu et Marc ont quelques versets seulement pour cette prédication. Il n'y a aucun contenu et il n'y a quasiment aucune réaction, sauf un manque de foi, et puis c'est tout. Hein, Luc a vraiment gonflé tout ça. Alors, vous vous rappelez, faisait l'éloge de Jésus, tout le monde lui faisait un bon accueil, vous voyez, au verset 28, à ces mots, tous devinrent furieux, tous. Vous voyez ? Alors, Luc globalise tout le temps. Hein, vous voyez, hein ? Donc, tous contents, tous furieux, vous voyez que les paradoxes, hein, il en use et il en abuse. Hein. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville. Alors, hors de la ville, Nazareth, il faut voir le patelin, hein, c'est rien du tout. Alors, hors de la ville, dans un bibliste pensera, tiens, hors de Jérusalem. Vous voyez, Jésus sera crucifié hors de Jérusalem. Ils le menèrent à un escarpement de la colline, là où la ville est construite, pour trouver grand-chose, pour le précipiter en bas. Vous voyez, cette violence homicide. Rien de semblable chez Matthieu ou Marc. On nous dit simplement, il n'a pas pu faire de miracle, parce que vraiment, il s'en foutait complètement. Vous voyez. Et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Vous voyez, alors, dans Saint-Luc, le chemin, ça va être le thème de la troisième partie, c'est le chemin qui va le conduire à Jérusalem, là où il va vivre sa passion et sa résurrection. Et dès le départ, dès la première scène, Luc met tous les ingrédients qui vont caractériser l'ensemble de son récit. Non seulement l'évangile, mais même dans les actes des apôtres, si vous vous souvenez, Paul fera lui aussi un chemin, une montée vers Jérusalem qui va le conduire à une arrestation, un procès, une condamnation à mort qui va être remise puisqu'il va faire appel à l'empereur, et c'est à Rome, suite de Jérusalem, qu'il aura à donner son témoignage et à être martyr. Oui, il y a une parallèle, bien sûr, sur le chemin. Alors, vous voyez, donc, quand je mets son chemin vers où, Luc réserve l'information un peu plus loin, donc c'est vers Jérusalem, vers sa passion, vers sa résurrection. Échec ou réussite ?
Il l'a cherché.
Alors justement, il l'a cherché pour obtenir quoi ? Pas se faire virer. Vous voyez ? Donc, on se doute bien que ce n'est pas un échec, mais quels sont les arguments littéraire qui nous fait comprendre qu'en se faisant virer, Jésus a réussi son projet.
Il s'est révélé comme prophète.
Ben oui, puisqu'un prophète n'est pas recevable. En se faisant virer,
il suffit d'insulter les gens, on se foutre à la porte et on dit c'est la preuve que je suis prophète.
Oui, mais là, c'est pas d'insulter les gens, c'est un entraînement pour confesser comme Messie et Seigneur celui qui a été crucifié. Ça sera l'annonce de la Pentecôte. Et acte 2, 36, c'est la finale, la péroraison du grand discours de Pierre. Dieu l'a fait Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. Vous l'avez rejeté, vous n'avez rien compris. Voilà que Dieu vous donne maintenant, en le ressuscitant, un chemin de reconnaissance, de véridiction, pour reconnaître en quoi il était réellement un prophète. Mais c'est vrai que momentanément, le fait de se faire virer fait partie de la justesse de ce que Jésus proclame. Alors, cela dit, dans l'Ancien Testament, tout ça est déjà mis en œuvre. Il y a une figure qui est très célèbre et que Luc va mettre en avant dans l'ensemble de son évangile, ce qu'on appelle la figure du chant du serviteur, dans Isaïe au chapitre 53, et ce serviteur défiguré fonctionne sur un double mouvement. Un, on n'avait pas compris, on pensait qu'il était puni. On a reconnu maintenant qu'en fait il portait nos péchés et que grâce à lui nous sommes guéris. Vous voyez le phénomène, alors c'est un phénomène biblique qui est extrêmement fréquent, enfin qui est mis en œuvre par les sages inspirés dans la tradition d'Israël, une erreur. Mais une erreur parce qu'un excès de lumière, et on prend conscience qu'on n'avait pas compris ce qui avait été manifesté, et il est donné à un moment donné de pouvoir changer d'attitude et de reconnaître ce qu'on avait nié. Vous voyez, il y a dans la révélation de Dieu un passage, une mise à l'épreuve, qui change radicalement le point de vue qu'on avait adopté et qui se résume, à mon avis, de manière très simple dans le prologue, enfin, le témoin oculaire, donc l'immédiateté, les apparences, laisse la place à un chemin d'approfondissement et de vérité, mais qui suppose une profondeur qu'on n'avait pas soupçonnée. Et ça, vous savez, c'est en général l'ensemble de notre connaissance qui est convoquée ici, comme on dit quelqu'un, il gagne à être connu. Hein, vous voyez, le temps est valorisant, l'émotion d'un moment, etc. On s'aperçoit après que les informations souvent nous le prouvent. Hein, les journaux ne valent pas grand-chose, puisque un an, 10 ans, mais alors 50 ans plus tard, ils sont un peu ridicules. Et comment avait-on pu écrire de telles sottises alors qu'en fait il s'est passé ça, ça et ça. Allez voir la guerre de 14, allez voir Hitler, enfin, je veux dire, tous les événements possibles et imaginables, et sont l'objet, voyez, d'une telle réalité. Alors quand il s'agit maintenant non seulement de la mémoire historique, mais de la mémoire de la révélation et du passage du surnaturel au naturel, évidemment, il y a cette mise à l'épreuve. Vous voyez comment ça fonctionne ? Vous voyez, les ingrédients. Vous voyez, donc, l'incapacité qui va laisser place à une capacité. Mais, allons voir. Vous voyez, alors ça, c'est la première scène de la deuxième partie. Vous voyez, allons voir les effets dans la dernière scène. C'est le chapitre 9. C'est un véritable chamboule-tout. Alors, Jésus va continuer à se manifester. Je vous ai mis les ingrédients, vous voyez, en 8 sections qui sont bien délimitées par des arguments, par des éléments initiaux, conclusifs, etc. Si vous voulez savoir où travailler ça, c'est facile. Enfin, je vous le dirai, Florent vous le dirait aussi. Mais je vais voir immédiatement donc à la fin. Et à la fin, à partir du chapitre 9, Jésus s'associe les 12. Voilà. Et il va les associer à sa capacité. Vous voyez, il les envoie proclamer le règne de Dieu, guérir les malades, ne prenez rien, c'est pour dire que toute la force leur vient du Christ. Vous voyez, restez dans une maison, si on ne vous accueille pas, laissez la poussière, etc. Ils partirent, allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle. Bon, très bien. Pendant ce temps-là, Hérode se pose des questions et dans un vocabulaire, inattendu, pose la question, une sorte d'hypothèse, quel lien avec Jean-Baptiste qu'il a fait décapiter et qui pose déjà la question de la résurrection, qui est le but de l'évangile. À partir du verset 10 du chapitre 9, après la promotion, si j'ose dire, la mise en compétence des 12 autour de Jésus, nous aboutissons à une déclaration d'incompétence. Et tous les récits qui vont suivre vont mettre les 12 en situation d'incapacité à faire ce que Jésus leur a pourtant donné de faire. Et non seulement un prophète n'est pas reçu dans sa patrie, mais dans son milieu immédiat, Jésus est incapable de se faire reconnaître ou de se faire suivre par ses disciples dans un premier temps, tant qu'ils en restent à un témoignage simplement oculaire, tant qu'ils en sont aux apparences. On regarde brièvement, vous voyez, au verset 10, quand les apôtres revinrent, ils racontent, alors on se dit que ça a bien marché, d'ailleurs les Matthieu et Marc confirment qu'ils ont expulsé les démons, guéri les malades, très bien, les foules sont là, tiens, Jésus reprend la main, il leur fit bon accueil, c'est lui de nouveau qui fait, pas les disciples qui semblent se taire, c'est lui qui guérit. Le jour baisse et les 12 interviennent, pour aider Jésus, pas du tout, renvoie les foules. Et ils sont nombreux, qu'ils aillent manger, nous, on est dans un endroit désert. Le désert, ce n'est pas la Galilée, c'est symbolique, c'est un lieu d'épreuve. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Qu'est-ce qui est curieux ? C'est qu'au début du chapitre, on leur donne le pouvoir d'annoncer l'évangile, de guérir les maladies, de chasser les démons. C'est pas très compliqué de nourrir une foule quand on sait faire des miracles. Ils en sont absolument incapables. Alors, mais c'est très intéressant que la première incapacité des disciples soit pour un geste où Jésus va reprendre la main, va multiplier les pains dans les termes qui vont être ceux du chapitre 22, là où Jésus, le jeudi saint, va instituer l'Eucharistie. Et en un sens, les apôtres, les 12, incapables de multiplier les pains, seront incapables d'être à la hauteur du signe que Jésus va leur donner le jeudi saint. D'ailleurs, on verra au chapitre 22, lorsque Jésus parle de donner sa chair et son sang, eux parlent de savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Ils sont complètement à la masse. Et mais dans un sens un peu prophétique, d'après notre séminaire sur les Hébreux, les apôtres sont incapables de faire l'Eucharistie.
Mais ils peuvent prêcher.
Oui, mais là, ils coincent.
Ok.
Le mémorial, vous voyez, qui est notre geste à nous, le mémorial de tout l'Évangile, le principal, le cœur, c'est l'Eucharistie. Eh bien, on nous dit que les 12 sont incapables ni de multiplier les pains, et par allusion, ils sont incapables d'être à la scène.
Et les disciples des pharisiens peuvent expulser les démons aussi.
Aussi.
Mais il y a pas, il y a quelque chose de très particulier dans cette
nourriture. Oui, c'est très singulier. C'est la première dénonciation. Alors, Jésus le fait très bien. Ensuite, on a la confession de Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre dit, tu es le Christ, le Messie de Dieu. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Et dans saint Matthieu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et là, il n'y a rien sur la filiation divine. Et la confession n'est qu'à 50%. Et l'essentiel n'est pas dit. Ensuite, Jésus annonce sa passion. Et c'est suivi de quoi dans sa lutte, la première annonce de la passion et de la résurrection, d'un grand silence. Comment Pierre réagit dans Matthieu et dans Marc, si vous vous souvenez, hein? Ah ben non, ça t'arrivera pas. Au moins c'est sympa, si vous voulez. C'est au moins, ben, c'est au moins de la miséricorde, c'est au moins de la compassion. Quelqu'un que vous aimez vous dise, je vais passer à la casserole, certainement pas. Dans Saint-Pierre, dans Saint-Luc, silence. Saint-Pierre se tait. Il n'est même pas capable d'un geste aimable. Même si c'était un peu à côté de la plaque, humainement, c'était bon. D'ailleurs, Luc va raconter que quand Saint-Paul monte à Jérusalem en annonçant qu'il va être prisonnier, mis en procès, condamné à mort et qu'il va passer la casserole, dans l'Esprit Saint, les gens disent « n'y va pas ». Et on ne pousse pas au crime, hein, on ne pousse pas du tout à la souffrance. Vous voyez, humainement, stop, Pierre se tait. Et ensuite, ce qui pourrait être le cœur de l'évangile est dit simplement à quelques âmes d'élite, voyez, bien préparées, voyez, au verset 23, « Qui veut marcher à ma suite, il renonce à lui-même, prenne sa croix et chaque jour et me suive. » C'est dit à qui ? À tous, à la multitude, sans préparation. C'est même pas dit aux douze. On pourrait dire, tiens, les douze vont partager le secret. Absolument pas. Voyez, c'est la foule qui est l'objet de cette nouvelle, et celui qui a honte de moi et de mes paroles, vous voyez, on voit déjà que ça ne sera pas facile. Continuons ce chamboule-tout au verset 28. Alors, c'est la transfiguration. Hein. Vous voyez, par exemple, au verset 29, vous voyez, l'aspect de son visage devint autre. Vous voyez, toujours cette fameuse altérité, vous voyez, cet excès d'identité, si j'ose dire, hein, en la personne de Jésus. Hein. Alors, Moïse et Élie, etc., ils sont accablés de sommeil. Alors, au verset 33, c'est énorme, il faut savoir un peu de grec. Au verset 33, Moïse et Élie donc s'éloignent, quand Pierre dit à Jésus, alors, Luc est le seul à nommer épistata. Épistata, en grec, ça veut dire patron. C'est grotesque dans cette configuration-là. Dans saint Matthieu, c'est Seigneur, un nom divin. Jésus est dans la gloire. Dans saint Marc, c'est Rabbi. C'est moins bien, enfin, au moins, il est en position d'enseignant, ce qui est digne. Et là, patron...
C'est le café du commerce.
C'est le café du commerce. Bah, quand j'appelle quelqu'un patron...
L'addition.
Non, mais oui, ou si c'est mon curé, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec lui et qu'il est en train de dire... Non, dis donc, puisque c'est toi le patron, on va faire comme tu as dit. Mais ça veut dire que tu as tort. Et donc Jésus, Moïse, et etc., l'appellent épistata. Incompétence totale. Et... ensuite, c'est assez... Alors, le père, lui, intervient, c'est mon fils bien-aimé. Alors, au moment où il vient de dire qu'il va mourir, c'est mon fils. Et le père, lui, évidemment, sait qui est Jésus. Verset 36. « Pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. » Alors, dans Matthieu et dans Marc, Jésus leur dit « Ne dites rien ». Et on ajoute, et ils ne disent rien. C'est vertueux. Mais là, dans Saint-Luc, c'est pas vertueux. Ils ne disent rien parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien compris. Oui, il suffit d'enlever une information. Luc enlève une information qu'il avait pourtant dans ses sources, puisque beaucoup ont écrit, moi je vais écrire. Il enlève de l'information ce petit salaud, voyez, pour bloquer, pour enfoncer la situation de Pierre et de ses compagnons. Vous voyez comment on peut, entre guillemets, trafiquer un texte. C'est ce que fait lui. Enfin, il le trafique. Vous voyez, il l'ordonne, comme il l'a dit, pour obtenir un effet. Mais cet effet, c'est un effet de casser la compétence de Pierre et de ses compagnons avant, justement, qu'il ne se passe. Ben, ce que Luc raconte après, c'est-à-dire l'épreuve pascale. Vous voyez, encore une fois, le témoin oculaire par rapport au Christ n'a rien à dire. C'est très étonnant. Et vous voyez les petits changements de Luc par rapport... alors, ils descendent de la montagne. Alors là, on arrive vraiment au pire. Un bonhomme, un père de famille, a son fils possédé. Il a demandé aux disciples, qui au départ avaient fait un tas de miracles, vous voyez. Alors, c'est dit au verset 40, hein, « J'ai prié tes disciples d'expulser... » Ils n'ont pas pu le faire. Incompétence des disciples. Vous savez, à la clé, il y a l'incompétence de l'Église. Et est-ce que l'Église se reconnaît, et à quel prix et à quel moyen, compétente pour faire ce que Jésus lui donne de faire ? Et c'est pas simplement Les 12 historiques, vous voyez, c'est l'Église tout entière qui se trouve projetée dans l'évangile de Saint-Luc. Quand l'Église ne voit que les apparences, quand elle n'est que témoin oculaire, quand elle ne raisonne que dans l'émotion ou l'immédiateté, elle est incompétente. C'est redoutable. C'est très redoutable. Vous voyez, génération incroyante et dévoyée. Vous voyez, marrant, hein. Alors, Jésus reprend la main, il va guérir. Deuxième annonce de la Passion, verset 44, hein, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, ils avaient peur de l'interroger. Alors ça, c'est le pire, ça. Okay. Que ce soit mystérieux, très bien, mais craindre d'interroger, c'est ne pas vouloir comprendre.
Marie avait interrogé l'ange.
Bien sûr. Vous voyez, ici, c'est la mauvaise volonté, l'incapacité, on ne veut pas savoir.
Je ne demanderai pas de signe, ça.
Verset 46, une discussion à ce moment-là, donc Jésus vient d'annoncer pour la deuxième fois sa passion, lequel parmi eux était le plus grand. Mais Jésus dit, je vais être le plus petit, et eux, c'est lequel est le plus grand. Ils sont aux antipodes. C'est dur, hein? Alors Jésus prend un enfant, etc. Dernier élément, vous voyez, qui casse, et Jean, l'un des 12, dit à Jésus, maître, alors maître, je crois que c'est épistata, nous avons vu, donc patron, j'ai vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, nous l'avons empêché car il ne marche pas ta suite avec nous. Ne l'empêchez pas. Vous voyez, ça c'est un peu l'Église qui restreint son pouvoir indépendamment du pouvoir de Dieu. Et les gardiens du temple, c'est nous les patrons, c'est nous les maîtres. Et donc au chapitre, vous voyez, à la fin du chapitre 9, nous avons donc une sorte de dénonciation, vous voyez, des 12 qui sont incapables, parce qu'ils ne sont que des témoins oculaires, d'être témoins, d'être les témoins de ce que Jésus veut réaliser. Donc il va falloir une transformation. Il va falloir une transformation, vous voyez. Alors, la troisième partie commence au verset 51, hein, « Et comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, » alors l'enlèvement, ça sera la croix, en même temps que l'ascension, « le visage déterminé, » bon, c'est un peu différent, « il prit la route de Jérusalem. » Alors, vous voyez, à partir de 9:51, on va avoir la qualification des 12 par l'anticipation de la vigueur de Pâques, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection de Jésus, qui vont être comme anticipés par le récit de Saint-Luc. Un peu comme nous, si vous voulez, qui anticipons notre transformation par le baptême. Mais là, avant d'être transformés par la résurrection des morts dans le monde à venir, nous sommes déjà transformés par la puissance du baptême qui vient mettre en nous une puissance pascale. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ça sera la troisième partie. Mais vous voyez, avant de raconter comment Pâques change quelque chose dans la vie des hommes, des disciples, 5 chapitres pour dire sinon ça ne marche pas. Vous voyez, c'est la source de beaucoup de, comment dirais-je, d'incompréhension. Vous voyez, dès que l'évangile est réduit simplement à une sorte de culture, de connaissance, de maîtrise, y compris très scientifique, hein, mais à mesure simplement humaine, l'évangile est dégonflé. Il ne peut être gonflé qu'à l'énergie pascale. Ça sera la troisième partie de l'évangile. Vous voyez comment c'est. Alors, je n'ai pris que les charnières. Hein. Alors, l'intérêt, ça serait après, oui, ça serait de voir, pour la partie B, dans les 6 parties centrales, comment cette pédagogie est racontée dans les différents récits. Et vous pouvez le faire, ça marche. On fera la même chose pour la section C. Et il y a 8 sections dans la montée vers Jérusalem. Et on peut observer, dans la construction luthérienne, par les parallèles, si cette pédagogie, vous voyez, le témoin oculaire, le serviteur de la parole, etc., est à l'œuvre. C'est une hypothèse. On fait en littérature, on fait dans un récit, on fait des hypothèses pour savoir comment fonctionne le récit. On est bien obligé de faire des hypothèses, c'est assez scientifique. Maintenant, on les éprouve. Et alors, ça devient une partie de plaisir, si j'ose dire. C'est de mettre en œuvre ce travail. Et ça marche admirablement. Et pour ça, ça m'amuse.
Merci beaucoup, Henri. Hein?
Mais normalement, c'est pas fini. Hein? Marquez, vous avez tout compris.
Une question, quand même.
Là, vous avez tout compris, là.
Mais si j'ai bien compris, tu dirais que cette partie-là, B, donc, elle nous raconte l'histoire des 12 des disciples qui ont été, témoins oculaires, à la fois pour ça fonde quand même une véracité dans le témoignage que va reprendre Luc, oui. Mais en même temps, ça montre le caractère insuffisant.
Exactement. Les faits sont réels, les témoins oculaires voient les deux choses.
Mais ça ne suffit pas. Il faut ça. Sans ça, il n'y a rien, mais ça ne suffit pas.
Mais alors, la clé pour que ça suffise est une clé qui n'est pas simplement de l'ordre d'un surcroît de la rationalité, ça va être celui de la croix. Ça va être un acte qui ne dépend que de Dieu, c'est-à-dire de la possibilité de ressusciter à la mort. Mais oui, en même temps, comment la foi des disciples est mise à l'épreuve pour le lecteur dès le début. C'est saint Augustin qui dit, hein, l'Église repose sur trois miracles. La résurrection du Christ, la foi des apôtres et la foi aux apôtres. Alors, on s'étonne que ça soit si difficile. Prenez un type comme Carrère, Emmanuel Carrère, qui tourne autour de l'Évangile en plusieurs bouquins et en assez longuement, etc. Il bloque complètement sur cette question. Et alors, il a l'impression, mais n'ayant pas de culture, il a l'impression d'être le premier à s'apercevoir qu'il y a quelque chose d'extravagant. La tradition de l'Église affronte explicitement, sauf quand on roupille, quelque chose d'extravagant. C'est notre ordinaire. Et l'Évangile de Luc le montre beaucoup mieux que ses deux prédécesseurs. Saint Jean va aller un peu aussi dans ce sens-là. Vous vous rappelez, Marc, il dit, c'est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas le comprendre. Mais lui, il dit, si. Mais il faut affronter cet excès. C'est assez paulinien. Paul est certainement, littérairement, une source de Luc. Paul, il va, historiquement, Paul va toujours dans les endroits où ça ne devrait pas marcher. Corinthe, l'Évangile ne devait pas... Corinthe, c'est un port,
c'est les quartiers nord de Marseille.
C'est les quartiers nord, oui, c'est ça. C'est vraiment le truc où l'Évangile... Non, c'est n'allez pas là. Si, j'y vais. J'aimerais que ça marche pas. Et ça marche. Il va toujours... Ça le caractérise. À côté de ça, les quartiers nord de Marseille, après Corinthe... Nos cités sont pas pires que nos cités d'il y a deux mille ans. Mais dans des conditions où on vit quand même beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a deux mille ans, 1 million d'habitants à Rome. Vous voyez la masse? C'est quoi le pensage? L'Évangile est né dans les villes, pas dans les campagnes. Mais, ça dépend, avec l'énergie, on va devant la possibilité. Mais oui, c'est pas un choix interprétatif, c'est structurel du récit luthérien. Beaucoup plus intéressant.
Et annoncé par Luc dans le prologue.
Parfait. Oh ben, c'est là où c'est étonnant. Mais attendez, il faut aimer les balancements.
Merci Henri.
J'ai juste liste comme ça.
On va reprendre les paroles de
Gilles Simeon.